Séminaire de politique, 10 avril 1984, Saint-Joseph, Père Philippe.
Bien, je vais vous parler de Machiavel à travers deux ouvrages de cet auteur, Le Prince et les discours sur Tite-Live. J'ai retracé au tableau rapidement les points que je vais exposer. Enfin, ça paraît long, mais exposer va pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais tout d'abord parler de Machiavel et de son temps, pour le situer rapidement. C'est un peu de l'histoire, mais enfin. Alors, Machiavel, c'est une époque, la Renaissance, c'est une nation, l'Italie, et c'est une ville, Florence. Alors, la Renaissance a un peu pour but de revenir à l'Antiquité sans l'intermédiaire de l'âge médiéval. Et c'est ce que font les humanistes de l'époque qui développent un climat de pensée laïcisé. C'est aussi, sur le plan historique, le temps de l'affirmation des grands États monarchiques unifiés, tels que la France, l'Angleterre, l'Espagne. C'est le temps aussi de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et de la route des Indes, par le Cap, par Vasco de Gama. Alors, l'Italie, à cette époque, est une poussière de principautés, principautés plus ou moins éphémères d'ailleurs, et c'est le champ clos de tournois, de nations qui s'y rencontrent pour s'emparer de ces principautés. Machiavel est florentin, et il a vu se succéder dans sa ville régime démocratique et principauté, dont l'expérience de Savonarole, qui voulut instituer une théocratie à la fois, une démocratie à la fois théocratique et puritaine. Machiavel appartient à la bourgeoisie toscane, il fut un fonctionnaire apprécié, il meurt en 1527. Il a écrit trois œuvres majeures, notamment dans des périodes d'inactivité, Le Prince en 1513, Les discours sur les décades de Tite-Live et L'art de la guerre. Ses œuvres furent mises à l'index par le Concile de Trente en 1545. Machiavel se présente comme un penseur politique plus sociable, entre guillemets, que les philosophes scolastiques. C'est-à-dire qu'il connaît le théâtre du monde et il sait s'y adapter, enfin, à son sens. Il est contemporain de Luther, d'Érasme, qui écrivit une institution du prince chrétien, et de Thomas More, qui à la même époque écrivit L'île d'utopie, qui est un traité d'utopie politique. Donc on s'intéressait fort à la pensée politique de son temps. Bien, je vais voir maintenant l'œuvre et la doctrine. Le premier point, Le Prince comme traité de pratique politique. Le Prince, selon l'auteur lui-même, traite de l'essence des principautés, je le cite, de combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les maintient et pourquoi on les perd. En fait, il traite essentiellement du nouveau prince qui est fondateur d'un ordre entièrement nouveau. Pour fonder cet ordre nouveau, Machiavel exhorte le prince à imiter les anciens et les modernes, qui surent acquérir le pouvoir par la vertu, qui est une qualité essentielle aux yeux de Machiavel, et qui évoque un mélange de force et de ruse. De manière plus profonde, on peut dire que Machiavel veut circonscrire un domaine politique qui a une consistance propre et qui est régi par un déterminisme particulier. C'est-à-dire qu'une certaine situation étant donnée, et les conditions de possibilité de la tyrannie étant fixées, celui qui s'assigne la tâche d'arriver à la place du tyran, du prince, enfin, ces opérations sont rigoureusement déterminées. Ainsi, Machiavel n'hésite pas à produire des exemples scandaleux qui enseignent l'inéluctable enchaînement des moyens et des fins. Le prince pourra se servir de ces exemples pour accéder au pouvoir et s'y maintenir. Machiavel, en quelque sorte, formule l'existence d'un déterminisme dans lequel s'inscrit l'efficacité politique, selon une démarche assez analogue à ce qui se présente dans les sciences de la nature. Pour exposer sa pensée, il n'adopte pas le modo geometrico, enfin, qui apparaîtra avec Hobbes et Spinoza. Il a recours à la description de ce qui se fait, les choses modernes ou antiques, par opposition à ce qui s'écrit, entendez la tradition médiévale. Il tire ainsi parti de faits tant contemporains, qui ont l'avantage d'être proches dans le temps et dans l'espace, qui ainsi frappent plus les esprits, que de faits antiques, qu'ils soient historiques ou mythiques, qui peuvent appuyer son propos. L'attrait que peut exercer l'œuvre, notamment le prince, vient en grande partie de sa richesse documentaire. Certains commentateurs ont noté une contradiction chez Machiavel, c'est que dans Le Prince, il étudie en quelque sorte les moyens qu'a un prince d'acquérir le pouvoir et de s'y maintenir, et dans les discours sur Tite-Live, il érige les normes des institutions d'un État démocratique, républicain. Alors pour répondre rapidement, on peut dire que chez Machiavel, il n'y a pas de concept univoque d'État, de monarchie, de pouvoir. Ces notions présentent chez lui une certaine ambiguïté. On peut ajouter aussi que Machiavel, s'il penchait pour la solution démocratique qu'il avait connue à Florence, il considérait néanmoins que certaines situations étaient telles qu'elles exigeaient le recours à la solution tyrannique, au moins dans un premier temps, pour établir un régime, une forme de gouvernement qui soit viable. Lui-même était déchiré, il le révèle à la fin du Prince, du De Principe, par la situation politique profondément dégradée de son pays. Et il ne considérait qu'il n'y avait de salut que par l'avènement d'un nouveau prince, dont il voyait le prototype en César Borgia, prince aventurier de son époque, qui était le fils naturel du pape Alexandre VI. Bien, je vais voir maintenant comment Machiavel considère la condition humaine. C'est ainsi que Machiavel dénomme l'état de nature de l'humanité. Il confond d'ailleurs de manière constante la nature de l'homme avec son état de nature. Alors, il nous avertit de la nécessité de réfléchir sur celle-ci. Alors, je le cite, « On ne peut comprendre quoi que ce soit à la politique si on ne réfléchit pas sur la marche des choses humaines. » Cette condition présente selon lui une permanence qui n'est pas affectée dans son fond par l'évolution historique. Ce qui caractérise cette condition, c'est ceci. Alors, il y a trois postulats. Les hommes sont naturellement méchants et égoïstes. Et de ce fait, ils ne sont pas naturellement orientés vers la vie sociale et politique, ni vers la vie politique la meilleure. Deuxième postulat, tout bien est nécessairement accompagné de mal. Si bien que l'idée d'un régime bon est non seulement impossible à réaliser, mais elle est impossible théoriquement. Enfin, troisième postulat, les hommes ne font le bien que s'ils y sont contraints. Machiavel parle au sujet de cette condition de vérité effective de la chose. C'est-à-dire qu'il rejette non seulement la révélation chrétienne et tout ce qu'avait pu apporter une éthique chrétienne, mais également la philosophie classique qui montrait l'homme capable d'atteindre sa fin, son bien, et par là le bonheur, par une conduite volontaire. Cette vision de l'homme est très proche par certains aspects de celle de Luther, qui est contemporain de Machiavel, donc. Et c'est à l'intérieur de cette vision qu'apparaît le concept de nécessité comme cause efficiente de la communauté politique. Alors c'est le troisième point. Chez Aristote, la communauté politique trouve sa justification dans la nature humaine elle-même. Aristote nous dit que l'homme est par nature un animal politique. C'est son âme, forme substantielle de son corps, qui réclame la vie communautaire, cette vie en commun. Et c'est pourquoi la cité est différente d'une communauté d'animaux. Enfin, c'est l'homme en tant qu'il est un esprit incarné, capable d'être finalisé, qui réclame la vie en commun. Pour Machiavel, la situation se présente différemment. La communauté politique est justifiée par le fait que l'homme ne peut pas se passer de l'autre. C'est la nécessité qui le contraint à vivre avec l'autre. Alors, de quelle nécessité s'agit-il ? Il s'agit de ce que Machiavel appelle une nécessité de nature. Ce n'est évidemment pas le même sens auquel l'entend Aristote. Cette nécessité de nature, c'est la pauvreté et le besoin matériel. Elle se loge au cœur même des passions de l'homme pour le faire agir contre sa nature fondamentalement mauvaise et le faire accéder à l'état de moralité. On peut dire qu'on passe donc d'un principe immanent à une causalité extrinsèque. C'est-à-dire que de lui-même, l'homme ne vivrait que dans l'immoralité et à l'état de brute. C'est le terme qu'emploie Machiavel. On peut ajouter que Machiavel, en perdant de vue la nature humaine, perd de vue la finalité de l'homme. Ainsi, la réalisation du monde politique apparaît comme ce qu'il y a de meilleur pour l'homme et constitue le remède propre à l'état déplorable de sa condition. Mais l'homme ne peut réaliser ce monde politique de lui-même. C'est l'œuvre du nouveau prince. Alors, je vais vous parler maintenant de la nature du prince. Le nouveau prince, c'est celui qui introduit parmi les hommes des ordonnances et coutumes pour fonder un État et assurer un pouvoir qui fera passer les hommes de l'état d'immoralité à l'état moral. Mais il ne le pourra que par des voies qui contredisent la nature de l'homme. Alors Machiavel affirme cette possibilité grâce à deux postulats, à nouveau. Le hasard, c'est-à-dire les causes accidentelles, selon Machiavel, peuvent être maîtrisées par des opérations humaines dont le prototype est l'acte fondateur du prince qui instaure un ordre nouveau. Le deuxième postulat, c'est que l'homme est indéfiniment malléable. Il n'est finalisé par aucune fin naturelle ni surnaturelle. Et ses potentialités de méchanceté, puisque ce sont les seules que Machiavel considère, peuvent être canalisées vers l'édification du domaine politique. Ainsi, ce qui est exalté, c'est l'accroissement illimité du pouvoir de l'homme, dont le prince est l'illustration la meilleure, parce qu'il sait utiliser sa vertu pour maîtriser le hasard, et pour diriger les hommes en vue de ses fins. Mais il doit poser auparavant son acte fondateur dans des conditions déterminées. Alors voyons maintenant l'acte fondateur du prince. Pour Machiavel, la question essentielle de la communauté politique, c'est celle de son origine, qu'elle soit historique ou mythique. Car elle joue le rôle de cause exemplaire pour l'ensemble de la communauté. Machiavel affirme que les nouvelles principautés sont instaurées par le seul art, c'est-à-dire le talent et les armes, des fondateurs législateurs. Cependant, ceux-ci ne doivent pas oublier le fondement de leur acte de création. C'est un postulat que Machiavel rappelle souvent, le prince fondateur doit toujours supposer les hommes méchants et prêts à montrer leur méchanceté toutes les fois qu'ils en trouveront l'occasion. Cet acte fondateur ne dépend pas non plus seulement de la volonté du prince. Le prince doit s'apercevoir que telle situation est mûre pour provoquer des circonstances qui mettront en branle un processus révolutionnaire, en quelque sorte, qui lui permettra d'assurer sa souveraineté. Tout dépend donc du moment. On dit souvent que c'est le moment qui... Enfin, le moment fait le bon larron, ici c'est le moment qui fait le nouveau prince. Pour montrer la véracité de sa thèse, qu'il estime scientifique, Machiavel se fonde sur l'exemplarité de quatre personnages, dont deux sont historiques et deux sont mythiques. Et il joue, vis-à-vis de tous les princes fondateurs à venir, le rôle de cause exemplaire. Ce sont Moïse, grand législateur du peuple juif, qui l'a constitué. Romulus, fondateur mythique de Rome. Cyrus, qui en 539 avant Jésus-Christ unit sous sa royauté les Perses et les Mèdes. Et Thésée, qui est fondateur mythique d'Athènes. On peut dire que le prince fondateur apparaît comme un prophète, armé de préférence, pour assurer le succès de sa fondation et sa pérennité, c'est-à-dire son succès dans sa durée. Les princes prophètes cités ci-dessus n'ont cependant pu poser leur acte fondateur que parce qu'ils ont trouvé une situation qui leur était propice. Les hommes qu'ils ont été amenés à diriger et à constituer en peuple vivaient sous le régime exclusif de ce que Machiavel appelle la nécessité. Ou pour employer un autre terme qu'emploie souvent Machiavel, c'était des brutes, au sens propre du terme, en proie à la terreur, vivant dans la pauvreté ou l'oppression ou la dispersion. Il apparaît donc que la société fondée par le prince a aussi une fonction de sécurisation. Ces brutes, en quelque sorte, sont contraintes de vivre en société par une nécessité de nature ou une nécessité physique. Donc on peut dire que l'état de nécessité et la recherche de la sécurité sont propices à l'acte fondateur du prince et à l'avènement d'une société nouvelle. Enfin, Machiavel retrouve par là une vérité première, qui est que les périodes troublées de l'histoire d'un peuple sont favorables à l'avènement de nouvelles sociétés ou de nouveaux princes. Bien, je vais considérer maintenant la manière dont Machiavel considère la vertu et l'immoralisme du prince. Machiavel considère de manière générale que la raison, c'est-à-dire il faut entendre l'intelligence prudentielle, nous commande d'agir moralement, mais que la nécessité rend la pratique de la vertu morale la plupart du temps impossible. On retrouve donc le terme de nécessité qui, avec la notion de fortune ou hasard ou destin, joue pour Machiavel le rôle de cause errante. De quelle nécessité s'agit-il pour le prince ? En fait, on l'a vu, Machiavel affirme l'existence d'un déterminisme politique. C'est-à-dire que pour parvenir à telle fin, tel moyen s'impose rigoureusement. Ou plus exactement, pour Machiavel, gouverner est un art. Et comme tout art, il a ses voies déterminées. Il a des voies déterminées. Le prince doit avant tout observer les règles de l'enchaînement des opérations politiques. Il s'acquitte ainsi de sa tâche morale. Ceci étant posé, bien Machiavel estime que la vertu pour gouverner n'est pas toujours nécessaire. Elle est de l'ordre du phénomène contingent et non plus moyen. Alors là, je renvoie au chapitre 15 du Prince, qui est souvent cité. C'est là où Machiavel révèle le plus explicitement ce qu'on a pu appeler son matérialisme historique. Ainsi, Romulus fut un fratricide. Le fondateur, pour assurer ce bien qui est le fondement de la société, peut avoir recours à des moyens immoraux. La guerre est le prototype du moyen adapté à l'art du prince pour acquérir le pouvoir et s'y maintenir. C'est ainsi que Machiavel exhorte son prince à faciliter les guerres extérieures pour éviter les dissensions internes. Quel est le rôle du peuple dans cet ordre nouveau? Ce sont les discours sur Tite-Live qui nous révèlent la manière dont Machiavel considère la nature du peuple. Il cherche dans ce livre à définir les normes des institutions d'un État républicain. Et il est amené de ce fait à se pencher sur ce qui constitue la nature d'un peuple. On peut rappeler aussi que l'œuvre de Machiavel est contemporaine de l'éveil des nationalités dans l'Occident chrétien. Chez Machiavel, la notion de peuple n'est pas toujours clairement définie. Tantôt, il identifie peuple et patrie. Et c'est alors le fait d'une solidarité territoriale ou linguistique, religieuse ou traditionnelle, qui est premier. Tantôt, il identifie peuple et société civile. Le peuple est alors la communauté régie par des lois qui sont instituées par le prince. De manière constante, il apparaît cependant que si le prince est l'élément fondateur de la nouvelle souveraineté, l'élément rationnel en quelque sorte, qui informe une matière, le peuple, lui, est l'élément conservateur. Il représente l'élément moral et religieux du monde politique. Ainsi, Romulus fut le fondateur naturel de Rome. Numa, après lui, a eu recours à la religion pour assurer la cohésion du peuple romain et conserver l'œuvre fondée. Donc le peuple est l'élément conservateur de la nouvelle souveraineté. Et la religion a son rôle à y jouer. Alors comment Machiavel considère la religion ? Au dire de Machiavel, la mollesse des hommes d'aujourd'hui provient de leur éducation chrétienne. Je cite, qui place le bonheur suprême dans l'humilité, l'abjection, le mépris des choses humaines. Pour Machiavel, la religion chrétienne a contribué au rejet de ce qu'il appelle les choses humaines, c'est-à-dire, là je le cite également, la grandeur d'âme, la force du corps et toutes les qualités qui rendent les hommes redoutables. On peut dire qu'en un mot, la religion chrétienne a désaxé le monde politique en le rendant étranger à l'homme, parce que celle-ci fait que l'homme considère moins la gloire de ce monde. Or, pour Machiavel, comme on va le voir, la gloire de ce monde, c'est l'essentiel. Cependant, Machiavel admet que la religion permet aux hommes de retourner leurs désirs et leurs passions contre eux-mêmes et d'établir un ordre moral qui soit garant de l'ordre politique. La religion est le ferment qui permet aux hommes de se dompter et de se constituer en peuple, c'est-à-dire en une communauté politique ordonnée et non anarchique. Donc la religion joue pour le prince le rôle de ferment conservateur de son pouvoir. Et à ce titre, il doit la respecter. Son intérêt, l'intérêt de la religion, est donc l'utilité et non la vérité. Elle est un facteur d'unité et, à la limite, n'importe quelle religion peut faire l'affaire du prince. Alors, dans ces conditions, ayant examiné ces différents points, on peut se demander qu'est-ce qui fonde la souveraineté du prince. Alors, la question de la souveraineté est une question délicate. Il faut comprendre qu'il y a un rapport entre la souveraineté et la fin de la société. La fin, selon Aristote, je fais un bref rappel, la fin, selon Aristote, désigne quelque chose d'immanent à la société qui soit à la fois le bien de tous et le bien de chacun. C'est le bien commun de la cité, à savoir à son sommet le bien vivre, l'amitié de concorde entre les citoyens, ce bien commun impliquant des biens extérieurs, des biens sensibles, des biens économiques, et des biens intérieurs qui sont les vertus, des biens intérieurs à l'âme. L'exercice de l'autorité dans la société est avant tout un office civil au service de cette fin. On peut ajouter que cet office peut être consacré par le religieux, comme c'est le cas dans la monarchie de droit divin. La question de la souveraineté apparaît en effet comme un problème pratique qui est d'avoir à la tête de la communauté une autorité qui connaisse pratiquement le bien commun, qui soit capable de le défendre, de l'accroître et de chercher à le réaliser. On peut dire que c'est la raison droite, l'intelligence prudentielle, celle du gouvernant et celle des gouvernés, qui est à l'origine de l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire de la souveraineté. Parce que du fait de l'inégalité qui existe entre les hommes, du point de vue du droit à exercer l'autorité les uns sur les autres, on doit faire appel à la prudence pour ériger tel homme ou telle institution à la tête du peuple. On peut dire que pour Aristote, la souveraineté a donc un fondement naturel, la raison droite, l'intelligence prudentielle. Pour Machiavel, il en va différemment. L'autorité a pour fondement un calcul de l'homme qui l'a convaincu de l'intérêt de se soumettre à une puissance commune qu'il protège. En effet, l'homme, chez Machiavel, apparaît comme ayant implicitement un droit de nature qui est la liberté de chacun à satisfaire ses désirs et ses passions et sa volonté de puissance. Cependant, cette liberté, ce droit de nature à la liberté, ce droit à la liberté peut engendrer une menace pour les individus du fait de la rivalité de leurs désirs et de leur volonté de puissance. Il y a donc nécessité d'une autorité commune pour garantir dans des limites convenables et viables l'exercice de ce droit de chacun, de sa liberté. C'est donc à la fois la liberté et sa limitation qui fondent la souveraineté du prince, la liberté de chacun. Et on peut dire de manière plus, en poursuivant un peu le raisonnement, que c'est en élaborant des lois propres que le prince peut limiter cette liberté. Et c'est finalement la légalité qui est posée à côté de la liberté comme fondement de la souveraineté, c'est-à-dire un principe conventionnel. La société fondée par le nouveau prince semble donc incapable de penser sa souveraineté en dehors de la légalité admise. Elle perd son fondement naturel qu'elle avait chez Aristote. Alors, on peut se poser la question, quelle est la fin de la communauté politique pour Machiavel? Machiavel ne se pose pas la question et n'y répond pas explicitement. Cependant, selon l'ouvrage du prince, on peut inférer que cette fin, c'est la gloire du prince. Le prince doit en effet être soucieux avant tout de sa gloire. Toute l'action politique lui est ordonnée. Je cite Machiavel. Le prince doit appliquer son esprit à se faire donner par toutes ses actions une renommée de grand et d'excellent. Nous dit le chapitre 21 de cet ouvrage. Cette grandeur, en fait, va jusqu'à rejaillir sur la communauté et devient sa fin, son bien commun. Le prince, en quelque sorte, est né pour la gloire du prince, pour la gloire du peuple, et par son exemplarité, il devient sa fin. Donc c'est le prince dans sa gloire qui est la fin de la communauté. Alors le destin du prince est exceptionnel, reconnaît Machiavel, et n'échoua qu'à un petit lot d'individus. On peut ajouter qu'heureusement, parce que ce qui est sous-jacent à cette vision de l'homme, c'est l'exaltation du pouvoir de l'homme pour la splendeur qu'il procure, et on peut dire que c'est une vision d'artiste qui est épris du beau, d'un beau qui excuse tout, qui efface tout, et c'est l'exaltation de la personne dans sa gloire. Et avant de conclure, je vais examiner cette vertu dont fait si grand cas Machiavel. Machiavel nous dit que le prince n'est tributaire de personne, si ce n'est d'un précepteur qui n'est autre que le centaure Chiron, qui est un être mythique, mi-animal, mi-homme, qui éduqua Achille, guerrier fameux de l'Antiquité. Cet être mythique, en fait, pour Machiavel, symbolise la force et la ruse, qui sont deux arts majeures que doit posséder le prince. On peut y voir aussi la figure de la vertu dans ce centaure. Quelle est donc cette vertu dont fait si grand cas Machiavel ? En fait, le prince dont rêve Machiavel est un prince artiste qui est revêtu de cette qualité resplendissante qu'est la vertu. Celle-ci évoque la force, mais n'est pas la vertu de force. Il faut dire que c'est beaucoup plus le courage, l'audace, qui est inhérente à l'art ou à l'ambition, ou que procure l'ambition. Cette vertu est également fille de l'intelligence, dans la mesure où elle dénote chez celui qui la possède la présence de l'habileté, ou plus exactement de la ruse. Machiavel nous dit que le prince doit être lion, certes, mais plus encore goupil, c'est-à-dire renard. Enfin, le virtuose, le prince, a de la grandeur. Toutes ses actions en sont marquées et ont pour effet la gloire. La vertu rejaillit sur le sujet. L'homme virtuose, si l'on peut dire, se pare d'une splendeur de beauté. On peut se poser la question, est-ce que la vertu est un habitus ? Manifestement, elle n'est pas un habitus moral. Alors, est-ce que c'est un habitus d'art, d'art politique ? On peut se poser la question. Pour rappeler que pour Aristote, il n'y a qu'un seul habitus d'art politique qui est identifié à la prudence. En fait, la vertu apparaît beaucoup plus comme une disposition, une habileté dans l'exécution. Et à ce titre, on ne peut pas. Elle semble qu'elle est plus exactement une virtuosité dans l'efficacité politique. Donc on ne peut pas lui donner le titre d'habitus. D'ailleurs, l'analogie des termes entre virtuosité et vertu n'est pas accidentelle. Bien, je vais conclure en essayant d'examiner rapidement les raisons de la pérennité de l'œuvre, c'est-à-dire de son succès et de sa durée dans le temps, enfin de la durée de son succès. Comment expliquer le succès de Machiavel ? En fait, certains répondront par son réalisme, parce que Machiavel a une influence certaine sur des hommes politiques divers et sur des conceptions philosophiques diverses elles aussi. Donc certains répondront, c'est son réalisme. En fait, il s'agit de discerner que s'il était possible, il y a chez lui un excès de réalisme. Avec Machiavel, la politique devient un art, essentiellement. Le prince réalise une œuvre, son œuvre, dont l'homme est la matière. Alors on peut dire qu'un ordre prudentiel est présent, mais ce n'est plus une prudence au niveau moral. Il s'agit d'une habileté qui se situe au niveau de l'efficacité. Ce qui explique d'ailleurs que la cause exemplaire joue dans son rôle un rôle essentiel, joue dans son œuvre un rôle essentiel. Donc c'est une habileté aussi au niveau de l'efficacité. Enfin, il s'agit d'une habileté qui se situe au niveau de l'efficacité. Or, plus la politique est liée à l'économique, plus l'efficacité s'impose au détriment du point de vue éthique. Ainsi, pour prendre une illustration très ébauchée par rapport à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, l'autorité qui ne regarde plus que le bien extérieur propre au bien vivre, c'est-à-dire le bien économique, cherchera surtout à équilibrer des forces qui sont opposées au niveau économique. Et l'efficacité sera première. De même, le gouvernant qui a une vision idéologique de l'homme sera l'objet de forces contraires qu'il cherchera à neutraliser ou à étouffer. Et là également, l'efficacité primera. Voilà ce qui, me semble-t-il, ce qui fait l'actualité de Machiavel. On peut ajouter que le prince œuvre pour la gloire, qui est le lot de l'artiste. Et cela suffit à exercer quelque attrait sur les hommes politiques qui possèdent quelques vertus. Quelle a été l'influence philosophique de Machiavel ? Je retiens essentiellement deux philosophes, Kant et Hegel, à travers quelques ouvrages. Hegel, dans le pamphlet de 1801 sur la constitution de l'Allemagne, fait l'éloge de Machiavel, de sa conception politique, en la dénommant « conception exaltante, digne d'un esprit politique supérieur ». Il justifie la position de Machiavel à partir de la notion d'État unifié. Hegel également, dans les leçons sur la philosophie de l'histoire, suit Machiavel dans la mesure où il fait des passions de l'intérêt égoïste, qu'il soit individuel ou collectif, le moteur de l'histoire politique. Dans l'ouvrage intitulé « Idées d'une histoire universelle », Kant, tout comme Machiavel, constate l'insociabilité fondamentale de l'homme, mais il en fait le fondement ambigu de la société politique. Kant semble confondre également la nature de l'homme avec son état de nature. L'homme, selon lui, ne peut sortir de son état de nature que par un accord, là je le cite, pathologiquement extorqué avec lui-même en vue de l'établissement d'une société. La société est en quelque sorte contre nature. Kant résume sa position par un aphorisme: l'homme veut la concorde, la nature veut la discorde. Voilà les principaux points que je voulais aborder avec vous. Plutôt un immoralisme. Il met entre parenthèses complètement le point de vue éthique. Comment ? Ah, mais Machiavel parle des vertus, explicitement. En parler ? Il n'a pas effectivement une vue très, très exacte de ce que sont les vertus. Enfin, il constate que la vertu en elle-même est utile. Et il dit que ce serait bien si l'homme pouvait agir de manière vertueuse. Malheureusement, les circonstances font que la plupart du temps, il est impossible d'agir de manière vertueuse. Il la cerne pas, non. C'est-à-dire, il dit, il se réfère aux philosophies classiques, mais il dit, ce sont des vues de l'esprit, en fait, ce sont des vues de l'esprit dans la mesure où elles sont impraticables. Et à son avis, il faut s'adapter aux circonstances, s'adapter aux événements. Et ce qu'il appelle la nécessité, qui est un concept très, très primaire, philosophiquement parlant.
Il y a quand même une notion de bien, puisque vous disiez que les hommes ne font le bien que s'ils sont contraints.
Oui. La société est le remède à la condition humaine, en quelque sorte, pour Machiavel. C'est la société qui... Oui, c'est l'inverse de Jean-Jacques Rousseau. Oui. Oui.
Les hommes méchants et leur montrer leur méchanceté.
et prêts à montrer leur méchanceté. Oui. Je ne connais pas très bien Sartre. Comment est-ce que... Par opposition, j'ai pas très bien entendu. À une éthique. Ah oui, il y a plus de le point de vue éthique chez lui est mis entre parenthèses complètement. Machiavel isole en quelque sorte tous les éléments, je dirais artistiques, qui existent effectivement dans la politique, mais il les isole au détriment de toute une conception éthique de la politique. Il les sépare. Et en ce sens, sa position n'est pas juste. Il exalte le point de vue artistique au détriment du point de vue éthique. Pour lui, non. Enfin, il faut s'adapter. On peut pas dire que non, Machiavel ne considère pas le point de vue éthique. Pour lui, l'homme n'a pas de fin, si ce n'est l'édification du domaine politique. La contemplation, n'en parlons pas, ça n'existe pas. Et le point de vue religieux est vu sous son aspect utilitaire, sous un aspect utilitaire, et non plus de vérité pour l'homme. Non, c'est un penseur plutôt. Qui ne pense pas. Comment ? De ressemblance, oui, exactement. Oui.
Je pense
oui.
À Giscard.
Giscard, oui.
Vous Giscard
oui.
Comme ça.
Oui. Oui. C'est vrai que Machiavel a...
C'est tout à fait comme ça, c'est tout à fait la conception qu'il a. Exactement, c'est un libéralisme avant la lettre, mais c'est un libéralisme.
Mmh. Machiavel, d'ailleurs, a influencé de nombreux hommes, enfin, de nombreux, quelques grands hommes politiques, de manière... qui était...
Que le modèle,
oui. Napoléon, De Gaulle, était lecteur de Machiavel.
Giscard
en troisième position. Utilitaire, oui.
C'est plus propre comme ça.
La fin de la loi, oui.
On rend une chose, pour l'avortement, c'est comme ça. On rend une chose plus propre que le passé des gardes. On la cible dans le monde légal. C'est une vision.
Est-ce que tu peux nous faire une question des origines théologiques ?
Théologiques ? De Machiavel.
Comment est-ce qu'un peu comment est-ce qu'est née cette conception de la
politique ? Ça.
C'est ça. Ça apparaît de manière neuve, mais ça s'est sûrement mûri.
Ça nous tombe comme ça.
Ça tombe comme
ça. Il y a des théologies entre deux.
C'est la philosophie scolastique que Machiavel veut rejeter. Tout comme Thomas More, d'ailleurs. Thomas More et Machiavel ont tous les deux une position assez marqué contre tout ce qui est philosophie scolastique. C'est l'anti-philosophie scolastique, c'est le propre de l'humanisme.
Enfin,
c'est Luther également.
C'est une réaction assez commune de ce temps-là.
Oui.
Considérer que la scolastique est optimiste alors que si on regarde profondément, aucun n'est mauvais. Et si l'homme est mauvais fondamentalement, on n'a plus qu'à essayer de se tirer
comme on peut d'affaires. De retrouver l'autonomie de la politique.
Oui, par rapport à la scolastique.
Par rapport au Moyen-Âge.
Pas au Moyen-Âge.
Oui. C'est vrai aussi, oui. Comment ? Ah, c'est le souci de tous les humanistes, mais de tout. Ils développent un climat de pensée qui est indépendant de la révélation chrétienne. Ils veulent retrouver le primat, enfin, sans le retrouver, de la raison. Il le dit pas explicitement. Il rejette tout ce qui vient de l'âge médiéval. Ça, c'est explicite chez lui. Mais, alors, il se réfère dans le Prince. Enfin, c'est ce qui fait l'intérêt de l'œuvre un petit peu. C'est que il se réfère à des hommes politiques antiques très divers, très variés, et c'est un point de vue pragmatique essentiellement qui domine chez lui. Et... Machiavel personnellement, il est mort avec les sacrements, mais ce qu'il a fait entre temps, c'est plus difficile à dire. Il a eu un ancêtre bienheureux, paraît-il, qui est mort aux croisades. Qui l'a enveloppé. Sur. Il n'est pas du tout explicite ce sujet. Il a des notions très assez grossières, je dirais. Oh, pas du tout. Mais il y a une notion chez Machiavel qui est assez importante aussi, c'est la notion du beau. Pour lui, le beau a une grande valeur. Et ce qui fait la valeur d'une action politique, qu'elle soit morale, amorale ou immorale, enfin morale ou immorale, le principal critère, ce n'est pas sa valeur morale, c'est sa beauté. Donc, et un crime peut être jugé valable s'il est beau, esthétiquement parlant. S'il n'est pas beau, c'est un peu grossier. Machiavel le rejette. Mais donc c'est un critère très, enfin que développe toute la Renaissance d'ailleurs. Le critère du beau qui justifie tout. En philosophie politique, ah oui, c'est peut-être la question. Il y a une efficacité à avoir dans le domaine politique, c'est certain. Et Machiavel pose la question, effectivement. Dans le fond, c'est cette question-là qu'il nous pose. Mais lui, il le fait d'une manière très, très exclusive. C'est-à-dire qu'il perd de vue complètement. C'est ce que j'essayais de montrer. La finalité, il ne développe plus que l'aspect du comment. Et je pense que l'art se situe un peu à ce niveau, au niveau de la réalisation pratique. Il y a une efficacité à y voir dans le domaine politique. Alors Machiavel ne se penche plus que sur cette question, explicitement. Les fins, ça l'intéresse plus. Il y a une parenté, enfin, lointaine. Mais...
Comme deux confrères. Comme le libéralisme.
Oui. Oui, exactement.
Je crois que c'est plus dans le sens du libéralisme. Je crois qu'il faudrait, ensemble, c'est ce bain dans lequel on est.
Oui, ils ont quand même une heure d'un vue vis-à-vis de la religion.
Oui, pas forcément. Parce qu'il y a, c'est comme deux contraires, si vous voulez, quand vous prenez le marxisme et le libéralisme, ce sont deux contraires, mais qui, au fond, ont la même.
Oui, parce qu'au fond, le marxisme cherche à tirer le peuple de l'objet. l'opium de la religion, alors que Machiavel tend à l'ancrer dedans pour plus de vie.
Oui, il s'en sert.
Il s'en sert.
C'est la même vision, mais les deux.
mais diamétralement opposés, si vous voulez. Parce que je crois que c'est diamétralement opposé. Je ne crois pas que Machiavel aurait été marxiste. Tandis qu'il est dans le libéralisme un peu à fond.
Donc ils ont la même conception de la religion. Ils ont la même vue sur la religion.
Oui, mais pas la même chose.
Ils n'utilisent pas la même façon.
Non, non. Alors, il y a une utilisation de la religion par Machiavel en vue d'une efficacité et d'une utilité dont il ne lutte pas directement contre, il s'en sert. Oui. Tandis que de l'autre côté, on l'enlève parce que c'est une aliénation fondamentale. Il s'agit de libérer. Il y a quand même deux attitudes là qui me semblent différentes tout en ayant peut-être le même jugement de valeur. Il y a deux attitudes diamétralement opposées au point de vue pratique. Or, comme pour eux, c'est le point de vue pratique qui est essentiel, qui commande tout, il n'y a plus de connaissances spéculatives, c'est bien évident. On est uniquement en faisant un point de vue pratique. Et alors, au point de vue pratique, ils ont deux attitudes diamétralement opposées. Mmh. Parce que d'un côté, on la maintient, c'est-à-dire on la maintient pour dominer le pas.
Pour dominer le pas.
Et de l'autre côté, on essaie de la supprimer. Dans le libéralisme, on maintiendrait la religion, exprès. Mais on la pervertirait de l'intérieur.
C'est pas un peu ce qui se produit en Chine.
Comparativement à la psychologie, du moins au marxisme, proprement dit. Oui, il y aurait sûrement des choses.
Quand vous parlez du libéralisme, il s'agit de du libéralisme économique.
Le libéralisme pris de façon très générale, pas le libéralisme économique si vous voulez, mais c'est pas tellement le libéralisme économique, c'est le libéralisme pris comme philosophie. Ce qui est condamné, c'est pas le libéralisme économique qui est condamné, ce qui est condamné par l'Église, c'est le libéralisme pris comme conception de l'homme. C'est cette notion-là, au fond, où le seul critère devient le point de vue et de l'adaptation. Soyez parfaitement de votre temps. Et alors là, il y a quelque chose de plus, ça, alors c'est propre à la Renaissance, c'est le point de vue de la beauté.
La beauté, oui.
C'est propre à la Renaissance.
C'est propre à la Renaissance.
C'est là où on est plus bas que la Renaissance.
Oui, oui.
Parce que je vois pas très bien Giscard avec le critère de la beauté. Je vois moins bien. Peut-être pour des beaux tableaux qu'il garde chez lui, ça c'est peut-être. Mais il y a un ami, mais c'est pas seulement ça qui a la beauté du geste.
Il est esthète. Il est esthète.
Machiavel,
oui. Non, Giscard.
Ah, Giscard.
Quel peut être le rôle de la religion dans la politique ?
Pas du politique.
Comment ?
Dans quel sens vous posez la question ? Si on cherche une politique saine, humaine,
est-ce que la religion n'a rien à voir ou est-ce qu'il y a des interférences entre les deux ?
Peut-on avoir une politique religieuse ? Peut-on avoir une politique chrétienne ? C'est toujours la même question. Alors, le jour où on comprend que la politique est au niveau du conditionnement humain, et non pas avec le respect de la finalité, mais pas la finalité directement, vous voyez qu'il y a un respect de la finalité, comme il doit y avoir un respect de la famille, comme il doit y avoir un respect de la foi chrétienne. Mais je ne peux pas dire que c'est l'attitude religieuse qui commande l'aspect politique. L'aspect politique, l'aspect religieux est plus radical que l'aspect politique, plus profond, et commande la finalité de l'homme. Oui. Alors, je crois que l'État doit respecter le point de vue politique, le point de vue religieux. Et il ne peut pas lui-même se mettre à diriger le point de vue politique. Il n'est pas prêtre. Il n'a pas un rôle de religieux, mais il doit le respecter, parce qu'il respecte l'homme.
Est-ce que le religieux, lui, peut agir sur la politique ?
Pas directement. Pas directement, parce que le religieux, c'est d'être lié à Dieu. Tandis que le point de vue politique, c'est pas être lié directement à Dieu, c'est être lié à l'homme, pour permettre à l'homme de trouver un épanouissement. Oui. Parce que je ne peux pas dire que le point de vue religieux est directement relié au point de vue. Le point de vue politique est directement lié au point de vue religieux. Je crois que c'est un respect que nous devons demander, que l'homme politique doit avoir par rapport à l'homme dans sa totalité. Tout ce qui est humain demande d'être respecté par le point de vue politique. Mais il ne s'en sert pas directement.
Vous dites qu'il y a une éthique chrétienne, parce qu'il y a une fin, une nouvelle. Alors on pourrait dire...
Il n'y a pas de politique chrétienne.
Oui, c'est une objection qu'on pourrait poser. On pourrait dire, en fonction de cette nouvelle fin, il y a une transformation du conditionnement politique qui légitimerait une nouvelle dimension de la politique qui serait chrétienne.
Est-ce qu'il faudrait voir quelle différence y a-t-il comme conditionnement ? C'est ce qu'on va voir en éthique chrétienne. Est-ce qu'il y a un conditionnement nouveau ? Je ne crois pas. Est-ce que la foi ne modifie pas mon conditionnement intellectuel ?
Pas plus ce conditionnement de la vie communautaire.
Est-ce que personnelle, pas mon conditionnement. Je crois que la grâce, oui, c'est la grosse question.
Oui, on nous allume un livre sur le grain de la journée. Ouais.
Ouais.
Une considération abondante sur la politique chrétienne.
Ça ne me donne pas.
Je vais profiter.
Une politique chrétienne
mais est-ce qu'il y a une... Au niveau de la prudence, l'homme d'État, s'il est chrétien.
S'il est chrétien, l'homme prudent, s'il est chrétien, il a un regard. Est-ce que le point de vue chrétien n'est-il pas en premier lieu un point de vue personnel, d'un salut personnel, puis un salut communautaire, c'est sûr. Mais c'est avant tout le salut personnel. Mais c'est ce qu'on a dit. On pourrait dire que, alors ça serait une question extrêmement intéressante à voir. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il n'y a-t-il pas une politique religieuse ? Parce qu'on est en face, dans l'Ancien Testament, on est en face d'une théocratie. Dieu seul est le roi du peuple d'Israël. Le prophète Samuel le dit avec force. Mais quand le peuple d'Israël réintroduit la royauté, le peuple d'Israël au fond réintroduit une laïcisation, si j'ose dire, de ce peuple religieux, de cette politique religieuse. Et il y a une consécration de ce roi qui le remet alors du côté religieux. C'est la consécration des rois.
Oui, il faut dire que les États.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Et la théocratie dans les États arabes aujourd'hui.
Oui, alors, là, c'est la même chose. C'est parce que dans le point de vue musulman, il y a très nettement un retour à l'Ancien Testament. Le Coran est avant tout et en premier lieu un retour à l'Ancien Testament. Sauf que certains le disent que le Coran n'applique rien au point de vue de la révélation. Comme on disait à propos de la loi et du décalogue, est-ce que le décalogue applique quelque chose qui est en dehors du point de vue de la raison humaine ? Eh bien, on peut dire qu'on est en face d'une politique religieuse. On serait en face d'État religieux. Et on voit comme ça marche bien.
Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça dans la période de l'Ancien Testament, du point de vue du gouvernement divin ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette
oui,
période
en préparation avec la royauté du Christ.
Pourquoi est-ce que ça a été bon pour un temps et puis ça n'est plus bon ?
Est-ce qu'on arrive à la chaîne ? Je crois que ça préparait, c'était la question du décalogue. Ça préparait un peuple pour être capable à la fois de pouvoir s'épanouir plus. Parce que c'est pas ça en raison des circonstances particulières. Ce serait intéressant de voir ça. Parce que Machiavel par rapport à Moïse, vous avez relevé les passages
de
Moïse. Vous les avez là.
Les passages où
c'est très intéressant parce que là on verrait justement vos positions de Machiavel par rapport à la sphère religieuse. Parce que c'est une politique religieuse.
C'est pas en raison de la nature humaine, cette politique, ce moment d'une politique religieuse dans l'Ancien Testament.
En raison de la nature humaine.
En raison de la nature humaine créée par Dieu. Ça reste valable.
Ça reste valable d'une certaine manière, et le point de vue chrétien le dépasse. Et je ne crois pas que le point de vue chrétien, il n'y a pas de la loi qui disparaît, mais donc, c'est le point de vue de la loi qui demeure. Et la loi n'est pas premièrement politique, elle est premièrement personnelle, comme morale, religieuse. Alors cette morale religieuse demeure, mais je ne crois pas que le christianisme maintient, alors on pourrait se poser la question, ça sera un point de vue politique, est-ce que le christianisme maintient une politique religieuse? Je ne dis pas une politique chrétienne, mais une politique religieuse.
Peut-être pas la tradition.
Ah, sûrement qu'on retrouverait ça dans beaucoup de traditions religieuses, on trouverait une certaine politique religieuse. Beaucoup plus facilement intégrable que, il me semble, une politique chrétienne. Mais la journée d'un des principes de la politique chrétienne, c'est pas que c'est. C'était de la Bijournée, mais c'était non, le pathos autour de la Bijournée.
C'est le livre de Père Émonet. Le livre de Père Émonet sur le plan de la journée.
C'est lui qui va amener sur le plan de la journée. Et alors, il montrait.
C'était le commentateur. Enfin, c'est assez mêlé, en fait. Difficile de faire le tri.
Entre le Père
Émonet. Le commentateur et le plan de journée.
Père Émonet est sûrement un très 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 beau dominicain, mais il n'est pas très percutant. Il suit la joie des traîtres, de disciples de la Bijournée.
Est-ce que l'intervention de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, modifie la structure de la politique? Ou bien est-ce que c'est simplement le point de vue de l'éducation?
Moi, je crois que c'est le point de vue de l'éducation.
La structure de la politique, elle n'est pas modifiée. Je dirais qu'il y a un conseil extrinsèque. Le fait que ça soit Dieu,
qu'est-ce qu'il dit?
C'est ce que dit Machiavel sur Moïse. Enfin, c'est une vision un peu particulière.
Oui, c'est intéressant. J'ai lu ça dans le temps, il y a longtemps.
Mais pour venir à ceux qui, par leur talent, et non point par fortune, sont devenus princes, je dis que les plus excellents sont Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée et quelques autres semblables. Et bien qu'on ne doive point parler de Moïse, n'étant qu'un vrai exécuteur des choses ordonnées de Dieu, toutefois il mérite qu'on l'admire, ne fût-ce que pour cette grâce qui le faisait digne de parler avec Dieu.
Il y a un certain respect.
Un certain respect.
C'est ce passage où est-ce qu'il dit.
Comment ?
On dit que Moïse fut un grand législateur. Si je mettais à sa place, j'aurais traversé le désert.
Ah, ça, j'ai pas trompé.
Ça m'a découvert ce passage, c'est merveilleux. Quand on voit tous les zigzags, j'aurais traversé ça bien plus rapidement.
Qu'est-ce que l'Église a voulu signifier par le sacre des rois?
C'est ça. Par toutes ces choses très difficiles à comprendre du théologique. C'est l'État chrétien.
C'était en période de chrétienté.
Oui, en période de chrétienté.
Et aujourd'hui en Espagne, le roi n'est plus sacré.
C'est ça.
Je ne vois pas.
Est-ce que c'est pas une. Ce qu'on ne peut pas dire que c'est.
Alors, vous voyez, c'est la vision du grand monarque qui doit venir. Ça fait partie de ces choses qui reviennent comme ça, constamment. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de mythe? Et qu'est-ce qu'il y a là de. Parce que ça revient tout le temps, ces choses-là. Les choses qui. Oui.
Ça ne concerne aussi que le roi. Le sac.
Oui.
Donc, c'est quelque chose de personnel.
Ah oui, mais c'est juste personnel en vue d'exercer sa royauté, c'est pas pour lui, c'est en tant que roi.
Donc c'est ça, c'est une grâce pour sa prudence. Hein? Vous voyez, c'est personnel comme toute grâce est personnelle, mais pour sa fonction de roi. Vous voyez, donc c'est par rapport à...
Est-ce que ce n'était pas l'Église qui reconnaissait au roi chrétien le droit d'avoir un rôle dans l'éducation du peuple chrétien, oui. Puisqu'il était lui-même chrétien?
Je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la question de l'éducation, je crois. C'est vrai que c'est toujours la question de l'éducation.
Parce que l'éducation permet le lien entre l'éthique et la politique.
Oui, tout à fait. Et c'est le lien entre les deux.
Ça permet de nous tirer une éducation. Peut-être que l'intervention de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est parce que c'est des gens assez très primitifs et que Dieu permet au peuple d'Israël d'être éduqué de manière magistrale au point de vue éthique et au point de vue politique par les 40 ans dans le désert. Une éducation de Dieu.
Ah, par les 40 ans dans le désert, c'est net, hein, c'était supprimé toute une génération qui avait été beaucoup trop contaminée. Voyez, et retrouver une nouvelle. Alors, c'est très délicat, ce serait intéressant à étudier. De voir qu'est-ce qu'on représente exactement cette politique religieuse révélée. Comme une architecture révélée. Il faut faire le temple de cette manière-là.
C'est prophétique.
Comme il fait l'arche de Noé. C'est très curieux, ces choses-là. Ça fait partie d'une vision anthropologique telle qu'elle est donnée dans l'Église. Mais ce serait très intéressant de voir ça, parce que je crois que vraiment là il y a quelque chose de particulier. On le retrouve, comme vous dites, chez les musulmans, c'est sûr. Mais c'est plus contaminé. Mais pour nous, c'est plus contaminé. Tandis que dans la politique telle qu'elle est donnée dans l'Ancien Testament, elle est quand même une politique que Dieu réalise à travers ses hommes.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que si l'éthique chrétienne donne un sens à la personne beaucoup plus aiguë, est-ce que par là même, la politique religieuse n'est pas un peu dépassée?
Sûrement, comme ça, je le verrais. Comme la loi est dépassée par le Christ, la politique religieuse est dépassée par le... Vous voyez? Parce qu'au fond, la grâce chrétienne, explicitement, donne à l'homme une liberté plus grande, une autonomie plus grande, et par le fait même, relativise davantage le point de vue politique. Vous voyez? Plus on est en présence d'hommes évolués, plus l'aspect politique diminue.
Est-ce que peut-être le Saint-Père, sans que le Saint-Père vienne de l'État du Vatican, on échange la responsabilité de l'État du Vatican au cardinal Cataroli, à son premier ministre, pour être plus au charge spirituel?
On leur remet, ils viennent de décharger.
Est-ce qu'on pourrait peut-être que l'Église doit...
Il y a peut-être d'autres raisons plus paternelles.
Est-ce qu'on pourrait peut-être que l'Église doit faire une politique chrétienne?
L'Église, c'est autre chose. Hein. L'Église, là, vous êtes la foi. Là, c'est que vous demandez qu'est-ce que c'est que l'Église. L'Église implique une politique comme... Toute communauté a un aspect politique. Vous pouvez vous poser la question, quelle est la politique de la communauté Saint-Jean? Elle est nécessairement chrétienne, ce serait triste autrement. Donc, à l'intérieur de l'Église, il y a une politique chrétienne, ça je suis tout à fait d'accord. Mais alors là, c'est tout à fait différent. C'est le Saint-Père, vous voyez, ayant l'autorité suprême, respectant cette autorité, et entrant dans l'économie divine.
Je crois que l'abbé Journet. Je crois que c'est plus sa conception de l'Église, si vous voulez, qu'il voit de façon très extensive. Il voit une politique chrétienne dans l'Église, donc il rejaillit sur tout le monde, et c'est comme ça que je crois qu'il voit un peu l'élaboration de l'Église. C'est peut-être choix dans son livre, c'est un peu ce qui.
Alors c'est l'Église, et non pas. Voyez,
c'est à partir
de la politique de l'Église. Moi je dirais plutôt. L'Église a une politique, c'est évident. Comme ce que dit Catherine de Sienne, de façon très nette, avec tout son humour, n'est-ce pas? L'Église va à peu près droit, parce que. Un pape donne un coup de gaffe à droite et l'autre à gauche. Alors on a des sortes d'ordres différentes et qu'on prenne du politique, il est évident qu'il y a des papes de droite et des papes de gauche. Si je prends de façon très générale du tempérament, oui, il y a des alliances qui sont comme ça, différentes. Alors, le Saint-Père peut donner des conseils aux chrétiens au point de vue politique, il peut donner des conseils sur du ralliement en France, en 13. C'était la question, donc, des conseils donnés au point de vue politique. Mais que l'Église ait une politique, je suis tout à fait d'accord, l'Église a une politique. Mais alors, c'est directement dans la lumière de la foi, en passant par la prudence. Mais nous plaçons, nous, du philosophique, en sachant qu'est-ce qu'il y a une politique chrétienne du côté des hommes politiques. Oui. C'est intéressant ce que vous avez dit. Merci bien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.